Bernard.
Auditrices, auditeurs, bienvenue sur les bonnes ondes de Comme à la radio. L'émission à écouter, à réécouter, à emporter et à partager de la comédie de Colmar. Participe à ces podcasts Lily, Gaspard, Julien, Léa, Anne-Lise, Michaela, David, Pierre, Paul et les autres. Membres de notre jeune troupe de théâtre mutualisée avec la Comédie de Reims, nos artistes associés, notre collectif artistique et bien d'autres intervenants issus du monde du spectacle, mais pas que. Chaque épisode s'arrête sur une des thématiques qui traverse notre saison et permet d'offrir une lecture enrichie, un regard augmenté. À présent, réglez votre poste, fermez les yeux et tendez vos antennes. Vous êtes sur la bonne fréquence, c'est comme à la radio. Thème de ce podcast, place aux jeunes.
Comédie de Colmar.
Pourquoi s'adresser au jeune public ? Question à l'auteur, concepteur et acteur Nicolas Marchand, qui présente Le Papa de Lila du 10 au 13 mai à la Comédie de Colmar. Nicolas, dans Le Papa de Lila, c'est une enfant qui parvient à pacifier le monde des grands, qu'ont les petits que les adultes perdent en vieillissant.
Je pense que les enfants, ils ont moins d'a priori. En soi, quand ils naissent, ils n'ont pas encore d'a priori, vu qu'ils ne connaissent pas le monde dans lequel ils naissent. Ils ont moins de méfiance, plus de curiosité à découvrir. Il y a quelque chose qui change en grandissant avec toutes les nouvelles qu'on reçoit tous les jours, avec tout le climat ambiant, avec notre éducation aussi, qui fait que je pense que même inconsciemment, il y a des peurs, des angoisses, des méfiances qui se mettent en place en nous et qui font qu'on est moins ouvert, moins disponible pour l'autre, pour le monde. Voilà, et que notre regard, il est à certains endroits déjà biaisé, déjà voilé par des inquiétudes, par des a priori, par des préjugés, voilà. Bref, je crois que les enfants, ils sont pas encore à ce point-là programmés.
Tu fais des spectacles qui s'adressent aux petits, voire aux très très petits. Quelle est la raison ? Ouvrir les enfants au monde du théâtre ? Préparer le public de demain ou déclencher des réflexions, des émotions, des questions chez eux ?
Moi je pense que c'est un peu tout à la fois. En fait, j'ai joué dans pas mal de spectacles jeune public il y a une vingtaine d'années. Mais après, Le Papa de Lila, c'est une pièce pour à partir de 5 ans, pour tout le monde à partir de 5 ans. Mais c'est à peu près la seule pièce que j'ai faite ces dernières années pour les petits. Et faut dire que ça s'adresse pas uniquement aux petits, ça s'adresse aussi à leurs parents ou aux professeurs. C'est une pièce qui, dans un rapport très intime de conteur avec les petits, en fait, raconte une histoire et défend des convictions pour les petits. Et les adultes, en fait, ils ont une autre strate de lecture en regardant mon rapport avec les petits. Parce que par ricochet, ça s'adresse quand même aussi aux adultes et à leur névrose ou leur peur, voilà. Bref, pour revenir à ta question, je pense que j'aime faire avec le théâtre, c'est essayer de donner des impulsions à discussion, à réflexion, à ressentir. D'ailleurs, c'est aussi avec le cahier à la fin que tous les enfants reçoivent. En fait, c'est aussi une manière de prolonger l'histoire, qu'ils puissent la partager, en discuter avec les parents, avec les profs, etc. Donc, au-delà du fait que je pense que c'est bien de montrer aux enfants que c'est chouette d'aller au théâtre et de voir des gens jouer, faire des trucs qui peut-être en soi n'ont pas un sens économique, mais plus une valeur immatérielle, au-delà de les faire aimer ça, je pense que c'est surtout aussi influé sur le monde, en fait.
Avec le théâtre des rêves têtus, tu proposes des pièces qui sont destinées à un public francophone et ou germanophone. En quelle langue rêves-tu? Quels sont tes rêves les plus têtus, ceux que tu refuses d'abandonner, d'oublier?
Alors déjà, en quelle langue je rêve, ça dépend un petit peu qui est dans mon rêve. Vu que j'ai toujours parlé que français avec mon père, par exemple, quand mon père est dans le rêve, je lui parle en français. Pareil avec la maman de mon fils, qui est française. Après, en général, il y a quand même plus de rêves en allemand, vu que c'est ma première langue. Et puis, quels sont mes rêves les plus têtus? En fait, les vrais rêves que j'ai maintenant, ils sont plus tellement personnels, ils sont plus tellement centrés sur une envie à moi qui serait pour moi. Avant, je rêvais de jouer dans les grands théâtres, toutes ces choses-là, ce que j'ai fait par la suite. Puis, je rêvais de vivre de ce métier, ce que j'ai fait aussi. Je rêvais d'aller en bateau à New York. En porte-conteneur, mais ça, j'ai pas encore fait. Mais en fait, je crois que maintenant, mes rêves, ils sont plus de l'ordre du qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire pour que les gens en général vivent mieux. Les gens qui m'entourent, les gens de la cité dans laquelle j'habite, etc. En gros, c'est vraiment plus des rêves collectifs. C'est le rêve de continuer à croire, en fait, ou de faire partie de ceux qui continuent à affirmer que c'est mieux la solidarité que la concurrence, que tout n'a pas besoin d'avoir une valeur dans un sens marchand ou dans un sens économique. Voilà, c'est continuer à participer à imaginer un monde et à travailler un monde qui serait un monde qui se soucie plus du bien de tout le monde, du bien commun, que d'une richesse individuelle. Moi, j'y crois encore, surtout quand je vois les jeunes maintenant, qui aussi à cause du changement climatique se mobilisent beaucoup, etc. Quand je vois les gens que je côtoie, qui ont 18, 19, 20, 25 ans, ouais. Je crois qu'il y a un bon espoir. Voilà. Et donc, c'est aussi pour le monde qu'on leur laisse à eux et à nos enfants qu'il faut continuer à rêver et à se battre. Voilà.
Une thématique, une création musicale du groupe Fergesson. Michaela, David, nous vous écoutons. Sois jeune et tais-toi, ou All is beautiful.
Place aux jeunes. Place aux jeunes. Oui, évidemment. Qui oserait dire le contraire? À part les vieux, peut-être. Et les jeunes vieux. Les plus de 30, 35, allez, 40 ans. À partir de quand on cède sa place? Nous, on aime à penser les choses en termes d'équilibre, d'harmonie. Vocal, vital, de symbiose. Tout est un, tout est dit. Tant qu'il y a de la vie, il faut s'en occuper. Now, playing.
Old is beautiful.
Friendly, we are all meant to. to my old man, song to my old man. Song to my old man.
Old family, we are all meant to be. Old is beautiful. Hopefully we are all meant to be old.
L'inénarrable comédien, l'immense metteur en scène, le grand cinéphile qui a trouvé le filtre magique pour garder l'éternelle jeunesse, Pierre Maillet, nous fait sa chronique ciné. Pierre, moteur.
Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Pierre Maillet qui vient vous livrer ses souvenirs de cinéphile assidu et non de spécialiste, j'aime bien le préciser à chaque fois. Et pour ce nouveau podcast, eh bien, la thématique du jour, c'est place aux jeunes. Alors, place aux jeunes, c'est un peu comme les histoires d'amour qui finissent mal. Il y en a beaucoup de places faites aux jeunes dans le cinéma et c'est tant mieux. Et alors, toujours à brûle pour point, autre expression que j'adore, utiliser dans ces podcasts. La première chose, moi, qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est les grands acteurs et les grandes actrices qu'on a vus, débouler comme ça de manière fracassante dans le cinéma et souvent c'est lors d'un premier plan ou de c'est évidemment le film tout entier mais c'est des espèces de chocs comme ça où on se dit quand on entend parler quand on voit le visage eh bien cette personne on sait déjà qu'elle va être omniprésente et très importante dans le cinéma et qu'on aura envie de la suivre. Alors comme ça moi il y en a trois qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est très évidemment très personnel. C'est que j'avais le même âge et que quand j'ai vu l'effronté et donc Charlotte Gainsbourg arriver sur les écrans en 1985, je suis non seulement tombé immédiatement amoureux, mais j'ai tout de suite senti que ça allait être une très grande actrice. Et puis ça ne s'est pas, je veux dire, j'ai pas été le seul à le penser. Et puis on voit bien la carrière qu'elle a maintenant. C'est quelqu'un, au-delà du fait que ce soit la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, on se dit que de toute façon, c'est pas forcément son hérédité, on va dire, qui a fait son succès, comme on en connaît bien d'autres. Là, pour le coup, c'est une immense artiste, une très grande actrice, très particulière, sa voix, son tempérament, sa drôlerie. Parce que le fait qu'elle boude, moi, ça me fait évidemment énormément rire. Et donc, voilà, c'est elle qui ouvre le bal de ces jeunes qui déboulent de manière fracassante. Pas très longtemps avant, il y avait eu Sandrine Bonnaire dans À nos amours de Piala, autre grande actrice. Et là, moi, je me souviendrai toujours, en fait, de ce premier plan du film où elle récite du Musset. D'une manière tellement particulière, tellement fraîche, pas du tout classique. Et là, on se dit waouh, ça y est, là, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, le film est évidemment incroyablement beau sur l'adolescence. C'est évidemment le cas aussi de L'Effronté. Je reviens à Charlotte Gainsbourg parce que L'Effronté aurait pu, même si j'étais persuadé que non, n'être qu'un coup d'essai. Claude Miller, donc le réalisateur de L'Effronté, décide de faire un autre film avec elle à partir d'un scénario inédit de François Truffaut. Ce sera La Petite Voleuse. Ce qui est très beau aussi, c'est évidemment quand des grands acteurs ou des grandes actrices comme ça arrivent très jeunes, c'est aussi de les voir grandir. Et quand les cinéastes ont la géniale idée de les accompagner, alors là, ça rajoute un bonus supplémentaire, évidemment, à la qualité des films qui sont indéniables. Et c'est le cas pour Charlotte Gainsbourg, qui, 2 ans après L'Effronté, va faire donc cette Petite Voleuse, qui est un film, pour le coup, c'est très marrant, parce que c'est un film qui se passe plutôt dans les années 50, avec une gamine qui se débrouille, on va dire, voilà, qui va rencontrer l'amour, qui va, enfin, c'est la suite de L'Effronté, mais ce n'est pas le même personnage, ce n'est pas la même époque, mais c'est la même actrice. Et on voit que Claude Miller vraiment prend un plaisir justifié et tellement beau à voir aussi grandir Charlotte. Et nous, évidemment, on est, enfin, en tout cas moi, j'en étais ravi. Pour Bonheur, ça va être un petit peu la même chose finalement, sauf que Piala va la suivre quand même aussi beaucoup. Dans Police, qui est son film d'après À nos amours, elle a un tout petit rôle, mais elle est quand même tout aussi présente que Sophie Marceau, qui a un peu plus de mal à rentrer dans l'univers de Piala. Et puis c'est une amitié, toujours pareil, merci les DVD, quand on entend l'interview de Bonheur qui nous raconte en fait cette espèce de paternité adoptive qu'elle aura avec Piala, le lien qu'il aura avec le propre père de Sandrine Bonheur, enfin tout ça c'est aussi des histoires de famille quelque part et de paternité, de cinéma. Et donc après Police, il y aura Sous le soleil de Satan. Donc voilà, il y a ces trois films, mais c'est surtout aussi après, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, Agnès Varda qui lui propose l'un de ses plus grands rôles en jouant Mona, la SDF de Antoine Ilois. Donc voilà, Bonheur et Gainsbourg, bon... Encore une fois, pardonnez-moi, c'est les années 80, mais pour moi, ça a été des arrivées vraiment trop, trop belles dans l'univers du cinéma et des actrices qui m'ont toujours accompagnée et que je suis toujours. Alors après, on va revenir un petit peu plus tôt dans l'histoire du cinéma. Bon, là, je ne vais pas être très originale, mais c'est vrai que quand on voit déjà le casting de Jean-Pierre Léo pour jouer Antoine Doinel dans Les 400 coups. Et là, pareil, cette espèce de fraternité paternelle, enfin, c'est extrêmement beau. L'alter ego de François Truffaut, que Truffaut trouve en Jean-Pierre Léo. Et il va décliner, évidemment, la figure d'Antoine Doinel sur 4 films, même 5, parce que Antoine et Colette n'est pas un long métrage, mais il fait partie quand même de l'évolution de Jean-Pierre Léo, parce qu'évidemment avant qu'il travaille avec d'autres grands artistes comme Godard, comme Jean Eustache, comme Pasolini, c'est évidemment la fusion avec Truffaut qui est passionnante, parce qu'encore une fois on le voit grandir. Donc dans Les 400 coups, c'est évidemment un petit gamin absolument craquant, intelligent. Enfin voilà, revoyez vraiment la scène de casting des 400 coups, revoyez tous les Doinel, parce que ça c'est évidemment une grand pan, je trouve, de l'histoire du cinéma français. Et ce qui est aussi extrêmement bouleversant, c'est le dernier Doinel, parce que je pense qu'ils savent les deux que ce sera le dernier, qui est L'amour en fuite, où on sent là, on voit poindre déjà le Jean-Pierre Léo qu'on a connu après sa grande époque des années 60-70. Et ou quelque chose de plus cru, de plus triste et de plus tout aussi magnifique, mais quand même un peu plus sombre, va poindre chez cet acteur, et on le sent déjà venir à la fin de L'amour en fuite. J'en ai un autre là, tiens, qui me vient. Encore une fois, merci les DVD. Bon, E.T. de Steven Spielberg, encore mon enfance. Là, pareil, Henry Thomas, le jeune acteur qui va jouer Elliot. Spielberg raconte dans les bonus des DVD qu'il a eu beaucoup de mal à trouver le jeune garçon, et qu'un jour ce fameux Henry Thomas arrive, et l'audition, le casting d'Henry Thomas, quand Spielberg lui dit: mais tu sais, là, imagine, ok, c'est un extraterrestre, mais imagine que c'est ton meilleur ami qui s'en va et que tu ne reverras jamais. Les pleurs de cet enfant sont absolument bouleversants, et il l'a tout de suite évidemment engagé. Donc pareil, bonus d'E.T., regardez ça, c'est très beau. Et puis pour finir, il y a aussi un grand cinéaste de l'enfance que j'ai découvert il y a peu. Pourtant c'est un grand cinéaste, mais voilà, je m'y suis mis très tard. Et c'est Abbas Kiarostami. Alors Abbas Kiarostami, moi, je m'y suis pas mis parce que les derniers, j'avais pas vraiment la clé pour entrer. Je les trouve un petit peu plus distant comme ça, enfin moins directement humain comme ceux que j'ai découverts récemment, c'est-à-dire ses premiers films. Il y a notamment une trilogie qui comprend Où est la maison de mon ami, et La vie continue, et Au travers des oliviers. Et le tout premier s'appelle Où est la maison de mon ami, ça c'est absolument magnifique. Si vous n'en voyez qu'un sur la trilogie, regardez celui-là. Il filme les enfants comme rarement un cinéaste l'aura fait. Et le pitch d'ailleurs du film est à tomber, parce que ça commence dans un cours de classe de l'école primaire, je pense. Et, Et à un moment donné, à la fin de la classe, un des élèves, en fait, s'en va en oubliant son cahier de devoirs. Le film commence d'ailleurs par un élève qui n'a pas son cahier ou qui n'a pas fait ses devoirs, je me souviens plus, mais qui pleure, enfin, le maître le gronde, enfin, plus que ça, une détresse absolue. Et pour sauver son ami de cet oubli, il va partir à pied dans un village voisin, c'est loin quand même. Et pour absolument retrouver son ami dont il ne connaît pas l'adresse, c'est une amitié en même temps qui va naître parce qu'ils sont pas non plus crochés les deux comme ça tout le temps. Et donc il va partir à la recherche de son copain pour lui rendre son cahier et qu'il puisse faire ses devoirs. Je vous en dis pas plus, mais voilà. C'est très beau. Et puis, pour finir encore une fois, il y a un autre coffret qui s'appelle Les années Kanoun, puisqu'en fait, Abbas Kiarostami a travaillé pour un institut, un organisme, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, qui est censé, en fait, éduquer les enfants, donc des films éducatifs. Et lui va faire pas mal de films, hein, avant de faire, je pense, des longs métrages. Il va travailler dans pour cet institut. Et là où c'est très beau aussi, c'est que, alors c'est, évidemment ça parle beaucoup, c'est beaucoup beaucoup des enfants et qui sont au centre de ces films, et il arrive, en fait, en plus, quand on voit tout le coffret, alors c'est des films à durée variable, hein, il y en a de un quart d'heure, il y en a de une heure, qui ne parlent évidemment que de l'enfance et de l'éducation. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est extraordinaire parce qu'en plus c'est quand même un pays où, voilà, on pouvait pas forcément tout dire de manière directe. Et il va trouver à chaque fois des moyens de parler aussi de la façon dont on éduque les enfants, ce qu'on veut leur mettre dans la tête, de manière, on va dire, un peu difficile, quoi, que ce soit le rapport à la guerre ou le rapport à la religion. Et évidemment, Kiarostami est quelqu'un de beaucoup plus moral dans le bon sens du terme. Et donc, pour lui, l'éducation est une chose importante et large, et surtout altruiste. Et puis, un chantre de la liberté. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, il va trouver, et c'est là son grand talent de cinéaste, plein de moyens de faire passer des messages sociaux. pour que ça puisse être validé par la censure, mais par contre, là où il est très fort, c'est que le message est très très clair. Et je vais enfin finir, j'ai l'impression qu'il est très long ce podcast, par un cas, je pense, unique, et je crois que ça n'existe pas, en tout cas, je ne suis pas au courant si jamais ça existait, c'est Xavier Dolan. Bon, Xavier Dolan, c'est pareil, et c'est un peu différent, parce que là, pour le coup, ça arrive souvent pour les acteurs et les actrices, de voir des gens grandir. Xavier Dolan, lui, on le voit grandir en tant que cinéaste et en fin d'adolescence. C'est-à-dire, je pense encore une fois que c'est le seul cas de cinéaste, réalisateur, qui fait son film à 18 ans et qui fait le film d'un garçon de 18 ans. Malheureusement, c'est une chose qu'on voit vraiment très rarement, Xavier Dolan étant quand même très ambitieux dans le bon sens du terme, il y est arrivé. Mais ça, c'est une chose aussi magnifique de... J'ai tué ma mère, qui est donc son premier film. Je pense que il l'aurait fait 2 ou 3 ans plus tard. Le film aurait été certainement beaucoup moins fort, beaucoup moins juste et beaucoup moins émouvant que ce qu'il est là. Il a des maladresses, mais on s'en fout parce que la force émotionnelle de ce film est absolument sublime. Et on sent qu'il filme ce qu'il est en train de vivre en ce moment aussi comme personne. Et le rapport à sa mère et à ses histoires d'amour et à une adolescence écorchée qui ne sait pas toujours bien pourquoi elle l'est. Et voilà, et ça, c'est aussi magnifique. Et puis évidemment qu'on va suivre aussi, maintenant la carrière de Xavier Dolan, elle est énorme, et tant mieux. Et c'est un... Et de voir au fur et à mesure des films aussi comment lui grandit dans son regard de cinéaste et dans sa vie d'être humain, c'est très beau. Voilà, écoutez, c'était encore Pierre Maillet et j'espère que je vous aurai donné envie de faire un bain de jouvence parmi ces acteurs, ces actrices et ces réalisateurs dont je viens de vous parler. Et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.
Le micro-trottoir de Gaspard. Membre de la jeune troupe, le jeune Gaspard a parcouru les rues de Colmar pour un passionnant micro-trottoir. Vas-y Gaspard, passe le mic à la jeunesse.
C'est quoi pour toi grandir ?
Grandir, c'est ne plus être comme Peter Pan, quoi. Grandir, c'est quand tu pousses, quoi.
Super. J'ai une question. C'est quoi pour toi grandir ?
Pour moi, grandir, c'est faire face à ses responsabilités. C'est petit à petit perdre aussi son innocence. Et justement, avec le poids des responsabilités et la vie qui... Et commencer à se poser beaucoup de questions, beaucoup trop.
Ok, merci. Merci, Jérémy. C'est quoi pour vous grandir ?
J'ai pas l'impression d'être grande. Parce que moi, j'ai encore envie de rester enfant. Être grand, c'est aussi savoir garder une âme d'enfant. Donc, j'ai pas envie de... J'espère que je suis pas trop grande. Moi, ça me plaît bien comme ça.
Tiens, par hasard, dans un bar, un soir, je tombe sur Valeria Bruni-Tedeschi. Profitons-en pour questionner la comédienne et réalisatrice des Amandiers, film qui raconte sa jeunesse dans le théâtre de Chéreau. Lui affirme que les jeunes lui donnent du courage, de l'espoir. Et toi, Valeria, qu'en penses-tu ? Faut-il faire confiance aux jeunes ?
Par exemple, les jeunes gens de mon film, je pense que c'est des nouveaux visages du cinéma. J'ai confiance dans, si vous parlez d'acteurs. Après, en général, dans les jeunes gens, oui, j'ai confiance. J'ai confiance dans mes enfants, j'ai confiance dans l'être humain, j'ai confiance dans la vie. Je pense qu'on peut choisir de ne pas avoir confiance et d'avoir confiance. Et moi, je pense qu'on peut choisir et je préfère choisir d'avoir confiance. C'est un peu comme le pari de Pascal. Je préfère choisir d'avoir la foi que de ne pas avoir la foi.
Les moments musicaux du studio. Bleuet, de Francis Poulenc, sur un texte de Guillaume Apollinaire, chanté par Glenn Cunningham, avec Levi Gerke au piano.
Et tu serais oui, sinon que tes ennemis.
Elle est pimpante, ardente, malicieuse, espiègle. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, Anne-Lise Heimbourger ?
Triste adulte. Dire que j'ai une sœur mariée depuis 2 ans et demi. Je suis tante pour la 3e fois. Je n'ai même pas la moindre idée de la façon dont tout cela se passe. Ne te fâche pas ! Ne te fâche pas ! À qui demander sinon à toi ? S'il te plaît. Dis-le-moi, maman. Dis-le-moi. Parle, je t'en supplie. Ne m'en veux pas de te demander des choses pareilles. Réponds-moi. Comment ça se passe? Comment tout cela arrive-t-il? Tu ne veux tout de même pas que je croie à la cigogne à 14 ans? Grand Dieu, tu es étrange. Quelles idées tu as? Je ne peux pas avec la...
Pourquoi?
Maman, pourquoi pas? Ça ne peut être si horrible puisque tout le monde s'en réjouit.
Dieu me garde. Je mériterai. Va, habille-toi. Habille-toi.
Bon. Et si ta fille allait vraiment demander au ramoneur?
Mais c'est ta dernière folle! Oh, viens, viens ici, je vais te le dire, je vais tout te dire. Bon, t'es divine. Et pas aujourd'hui, viens là, demain, après-demain, la semaine prochaine, quand tu voudras, mon Dieu.
Dis-le-moi aujourd'hui. Dis-le-moi maintenant, tout de suite. Ce n'est pas en te voyant effrayée comme ça que je vais me calmer.
Je ne peux pas, Wendla.
Pourquoi, maman? Je me mets à tes pieds. Je pose ma tête sur tes genoux. Tu mets ton tablier dessus. Et tu racontes. Tu racontes comme s'il n'y avait personne dans la chambre. Je ne bougerai pas, je ne crierai pas. J'attendrai patiemment, quoi qu'il arrive.
Le ciel m'est témoin que ce n'est pas de ma faute. Dieu me connaît. Viens, pour l'amour du ciel. Je vais te raconter comment tu es venue au monde. Écoute-moi bien, Wendla.
J'écoute.
Mais je ne peux pas prendre cette responsabilité. Je mériterais qu'on me jette en prison, qu'on t'enlève à moi.
Courage, maman!
Eh bien, écoute.
Oh, Dieu.
Pour avoir un enfant, tu me comprends, Wendla?
Vite, maman.
Pour avoir un enfant, on doit, avec l'homme... L'homme avec qui on est marié, on doit l'aimer. L'aimer, je te dis, comme on ne peut qu'aimer un homme. On doit l'aimer très fort, de tout son cœur. Comme on ne peut pas le dire, Wendla. On doit l'aimer comme tu ne pourras encore aimer à ton âge. Voilà, maintenant tu sais tout.
Dieu du ciel!
Maintenant, tu sais quelles épreuves t'attendent.
Tu sais tout!
Aussi vrai que Dieu m'entend. Maintenant, prends le panier et descends China. Elle te donnera du chocolat et des gâteaux. Que je te regarde un peu. Les bottines, les bas, le nœud dans les cheveux. Mais ta petite jupe est vraiment trop courte, Wendla.
Il faut passer chez le boucher.
Le bon Dieu te garde et te bénisse. À l'occasion, je te rajouterai un volant au bas.
Voilà, il s'agit d'un extrait de la pièce de Frank Wedekind, L'éveil du printemps, qui dit « place aux jeunes », dit « éveil du printemps ». Qu'est-ce qui arrive soudainement, qu'est-ce qui éclot d'inattendu, de brusque, de dangereux aussi, parce que de radicalement nouveau. Une création négocie toujours une place pour la jeunesse, pour ce qui est inattendu. Dans la création artistique, il y a toujours quelque chose de totalement inattendu, peu importe les plans qu'on a forgés, fomentés, on va être bousculé par quelque chose de totalement inconnu. C'est ce qui est très très beau dans la pièce de Wedekind. Ces jeunes gens sentent bien monter en eux le désir, l'appétit pour l'inconnu, pour la sensualité, ils découvrent tout en même temps. Et à la fois le fait qu'ils vont mourir, qu'ils ne sont pas éternels, comme en atteste le début de la scène. Quand la maman de Wendla se demande à quoi ressemblera sa fille d'ici quelques années, Wendla lui répond « qui sait si je serai encore là ?» ou quelque chose comme ça. Donc elle a une prescience de sa condition mortelle, de sa finitude, alors même qu'elle croyait encore sans doute être éternelle la veille et qu'elle croyait aux contes de fées et aux mythologies de cigognes qui apportent l'enfant dans un panier. Être jeune, donc, place aux jeunes. La place des jeunes, c'est justement d'être comme ça, ballotté entre deux mondes. De devoir quitter le monde de l'enfance et d'aspirer à la découverte de l'autre, de la sexualité. L'autre, par excellence, celui qui est étranger à soi, qui n'est surtout pas soi, qui n'est pas familier, qui est pas papa, pas maman. Et à la fois, il découvre aussi que tout ça a une fin. Et comme Melchior, qui va dire à Wendla, alors qu'ils seront sur le point de faire l'amour, qui va lui dire « Crois-moi, tout n'est qu'intérêt et égoïsme. Je t'aime aussi peu que tu m'aimes. » C'est quand même d'un cynisme radical, nihiliste. Et ça aussi, c'est le propre de la jeunesse. D'être traversé comme ça par des pensées extrêmement profondes, opposées. Une soif d'idéal et en même temps une lucidité noire. Et donc, dans cette scène, l'enjeu, c'est celui-là. La fille demande à sa mère, elle lui enjoint de lui dire comment on fait les enfants, de quoi on retourne-t-il dans la rencontre avec l'autre, dans la sexualité. Comment ça se passe, tout ça? Dis-moi. Et au fond, tout rapport essentiel entre quelqu'un de jeune et quelqu'un de moins jeune repose là-dessus, sur un échange de bons procédés. D'une part, il y a la soif de savoir et d'apprendre et de découvrir, et d'autre part, il y a la connaissance d'un certain bout de savoir. Et quand ces deux-là se rencontrent, ça fait des étincelles, notamment en matière d'art. À titre personnel, d'ailleurs, je dois énormément aux metteurs en scène qui ont fait appel à moi alors que je sortais à peine de l'œuf. Je pense notamment à Bernard Sobel et à Mathias Langhoff. Je pense que ces appels du pied, ces mains tendues, bon, c'est un peu, ça résonne un peu de manière catho, tout ça, mais cette ouverture vers l'autre qui est, par définition, différent de soi et qui nous est vraiment étranger. La nouvelle génération. Cet appel, je crois, est le fait de tout créateur. Il me semble qu'un créateur digne de ce nom fait une place à la jeunesse parce qu'il sait que son bout de savoir, au fond, ne vaut rien s'il n'est pas confronté à ce qui arrive, à ce qui est sur le point de naître. Et voilà, donc c'est sûr que la pensée qui nous assaille tous à certains moments de notre vie et qui n'est jamais bon signe hein, sur comment est-ce qu'on se porte à ce moment-là, quand on a cette pensée, la pensée qui consiste à formuler ces fameuses phrases de « ah, c'est plus que c'était, les jeunes, c'est plus que c'était, c'était mieux avant ». En tout cas, les jeunes, c'est plus que c'était, ben oui, au fond, c'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est jamais ce qu'ils étaient hier. C'est bel et bien le propre de la jeunesse. Donc place aux jeunes, voilà, place à l'inconnu et bon éveil du printemps à tous.
Illustration visuelle et sonore de Lily Terrana. La créatrice Lily Terrana illustre notre thématique. Une œuvre visuelle à découvrir en ligne, une trace sonore à écouter ici et maintenant. Dessine-nous quelque chose, petite Lily. L'impromptu littéraire de JB par Paul Schirch. Le comédien et lecteur acharné, le juvénile Paul Schirch, se prend pour pivot mixé à Molière. Écoutons sa chronique, L'impromptu de JB.
L'impromptu de JB. Une émission proposée par Monsieur Poquelin, dit Molière. Une émission qui vous fait explorer avec le plus grand auteur de théâtre de tous les temps la présence d'une thématique dans l'écriture théâtrale actuelle. L'impromptu de JB.
Eh bien, bonjour ou bien bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un nouveau podcast de mon émission L'impromptu de JB, intitulé Place aux jeunes. Et oui, comme vous le savez, le théâtre contemporain ne serait rien sans la passion et l'engagement de notre jeunesse. Ah, la jeunesse! Je suis sûr que vous avez déjà remarqué les changements qu'opère la présence de la jeune troupe au sein de la Comédie de Colmar. Big up, Léa, Gaspard et Julien. J'ai moi-même commencé très jeune et j'ai constitué ma fameuse troupe. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vais faire un petit pas de côté et non pas vous parler de quatre pièces, mais plutôt vous présenter des dispositifs ou des formations d'écriture. Et oui, pour pouvoir écrire, il faut se former, ou tout du moins, trouver des comités de lecture qui aideront à vous faire connaître. Auteur en herbe, voici donc quelques liens pour vous aider. Sachez que deux écoles supérieures de théâtre en France ont en leur sein une section écriture dramatique. Il s'agit d'une part de la section écriture dramatique de l'ENSAT à Lyon, dont les responsables pédagogiques sont les célèbres Marion Aubert et Pauline Peyrade. Durant trois années de formation, l'étudiante ou l'étudiant, accompagné par des artistes confirmés de la scène contemporaine, apprend à écrire pour décor des voix, de la lumière, des univers sonores, des espaces. Concours accessible à partir de Bac plus 2. D'autre part, vous trouverez l'École du Nord Parcours auteur et autrice à Lille. Techniques dramaturgiques, scénaristiques et rédactionnelles seront explorées avec des auteurs et autrices en activité sous forme de workshops et masterclass. Parallèlement à ce travail sur la production du texte lui-même, la formation des auteurs et autrices passera par la mise en espace et en voix de leurs écrits à intervalles réguliers, au sein de l'école, lors de présentations publiques au Théâtre du Nord ou lors de lectures en itinérance en région et au-delà. Par ailleurs, si vous désirez faire des résidences d'écriture, vous pouvez faire des demandes notamment à la Chartreuse, Centre National des Écritures du Spectacle à Villeneuve-les-Avignon. Situé dans un lieu bien plus vieux que moi, 1352, la Chartreuse peut vous offrir un cadre d'exception pour écrire. Enfin, si vous désirez que vos textes soient lus par des comités pour avoir des retours ou faire partie de sélections, n'hésitez pas à envoyer vos écrits à différents comités de lecture, comme par exemple celui Hameau Découvert. Ou alors encore tous les comités de lecture de théâtre, comme le comité de lecture du Théâtre National de Strasbourg, de la Comédie Française, du Rond-Point à Paris, ou du Théâtre de la Tête Noire, ou encore le Théâtre de Poche de Genève. Vous pouvez aussi envoyer votre texte à la Mousson d'été, à Théâtre Ouvert, ou aux écrivains associés du théâtre EAT. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous de créer de futurs chefs-d'œuvre. J'espère que ces petites pistes vous aideront. Je vous souhaite de bons écrits et vous dis à très bientôt.
Les moments musicaux du studio. Le petit garçon trop bien portant, chanté par Yanis Gossin, ténor, avec Levi Gerke au piano.
Mon cher docteur, je vous écris, vous serez un peu surpris. Je ne suis vraiment pas content d'être toujours trop bien portant. Je suis gars, trois fois trop, j'ai des bras beaucoup trop gros. Et l'on dit en me voyant, regardez-le, c'est effrayant. Quelle santé, approchez, on peut tenter. Ah, mon cher docteur, c'est un enfer, je ne sais vraiment plus quoi faire. Tous les gens disent à ma mère, bravo ma chère, il est enfer. J'ai René, mon aîné. Quand il faut être enrhumé, ça lui tombe toujours sur le nez. Effluxion, attention, c'est pour mon frère Adrien. Mais moi, je n'attrape jamais rien. Et pourtant j'ai beau pendant l'hiver m'exposer au courant d'air, manger à tort à travers tous les fruits verts, y'a rien à faire. Hélas, je sais que lorsqu'on a la rougeole, on reste au lit mais on ne va plus à l'école. Vos parents sont près de vous, ils vous cajolent, et l'on vous dit des tas de petits mots gentils. Votre maman, constamment, vous donne des médicaments. Ah, mon cher docteur, si vous étiez gentil, vous auriez pitié. Je sais bien ce que vous feriez, les pilules que vous m'enverriez. Être bien portant, tout le temps c'est trop embêtant. Je vous en supplie, docteur, pour une fois, ayez bon cœur. Docteur, une seule fois, rendez-moi malade, malade, malade. Pendant une heure.
Vous venez d'entendre le podcast Place aux jeunes. Rendez-vous au prochain numéro Bête de scène.